Dateline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des Témoins de l'Invisible, l'émission consacrée à l'histoire des apparitions d'ovnis, d'objets volants non identifiés. C'est avec un expert que nous revisitons cette histoire. Il s'agit de Joël Ménard, ancien directeur de publication de la revue légendaire Lumière dans la nuit, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier Les apparitions d'ovnis publiées au Mercure dauphinois doit absolument être lu. Vous pourrez le commander chez votre libraire. Et puis Joël Ménard qui a surtout derrière lui 50 ans d'enquête sur le terrain au sujet des objets volants non identifiés. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons quitté le major Jesse Marcel de la base atomique de Roswell alors qu'il venait de ramasser quelques débris sur le champ du fermier Brazel. Ces débris lui ont semblé tellement étranges qu'il les montre à sa famille avant de les remettre à son supérieur hiérarchique, le général Blanchard. Que s'est-il passé ensuite? Reprenons le cours de l'histoire de Roswell en compagnie de Joël Ménard.
Bon, à la suite de ça, Marcel est allé à la base et très très vite, le colonel Blanchard, qui connaissait, ça s'écrit comme le mot, comme le nom français Blanchard, qui commandait la base de Roswell, a été mis au courant. Et dès le lendemain matin, c'est-à-dire le mardi, je crois que c'était le 8 juillet, Blanchard, le grand chef de la base, le colonel Blanchard, a donné l'ordre au chargé de relations publiques, Walter Haute. Ça aussi, ça s'écrit comme un mot français, H-A-U-T, d'envoyer un communiqué aux radios locales et à la presse locale pour signaler que le 509e bombe groupe avait recueilli les débris d'un disque volant. Alors, ce mot disque volant, c'est le mot qui était employé depuis quelques semaines déjà, et même quelques mois, pour décrire des objets volants non, absolument non identifiés et quelque peu énigmatiques qui s'étaient manifestés notamment dans la région de Roswell et dans la zone où avait eu lieu le premier essai nucléaire le 16 juillet 45. On était 2 ans après. Alors, le lieutenant Walter Holt a fait son travail en milieu de journée. Il a notamment appelé, il a notamment appelé la radio locale KGFL, qui a commencé à se préparer pour répandre le jour même la nouvelle. Et puis, un journal local qui s'appelle le Roswell Daily Record, qui lui a eu le temps d'annoncer l'incroyable nouvelle, ces disques volants qui mystifiait tout le monde depuis quelques semaines, et même un peu plus dans les milieux bien informés, on en avait enfin récupéré une épave, des débris. On allait savoir ce que c'était que ces choses-là, qui inquiétaient tant les militaires depuis des mois, et qui intriguaient même les civils depuis l'observation de Kenneth Arnold le 24 juin. Et ensuite, les choses deviennent très floues, très bizarres. C'est là qu'il faut faire un saut dans le temps et cesser de penser au déroulement des événements sur le terrain pour en venir à la manière dont ils ont été connus. Le soir même de ce mardi 8 juillet, la nouvelle ayant commencé à circuler, puisqu'elle a été publiée dans le Roswell Daily Record, le soir même, environ 5 heures après que le lieutenant Holt ait publié son communiqué, sur la base de Fort Worth, au Texas, une autorité éminente de l'aviation stratégique américaine, qui allait devenir, dans les semaines suivantes, le Strategic Air Command, a tenu une conférence de presse pour exhiber des débris métalliques et autres que métalliques, des petits débris légers. Il y avait des choses comme du balsa, des feuilles de papier aluminium. Il a exhibé ça, étendu sur le sol de son bureau, à une poignée de journalistes, en leur expliquant que c'était par erreur que la base de Roswell avait prétendu avoir trouvé les débris d'un disque volant. Il ne s'agissait pas du tout d'un objet mystérieux, mais tout simplement d'un ballon-sonde, comme on en lançait pratiquement tous les jours pour connaître les dernières nouvelles de la météo. Et ces ballons-sondes étaient équipés d'un réflecteur qui était un simple assemblage de baguettes de bois léger sur lesquelles on avait tendu des feuilles de papier aluminium qui formaient des trièdres trirectangles de manière à bien réfléchir le rayonnement radar. Ça permettait de suivre le trajet de ces ballons et donc de connaître la direction du vent. Donc il s'agissait de débris tout à fait banals, sans aucun aspect mystérieux ou intéressant. Et le colonel donc dégonflait complètement la nouvelle qui avait éclaté 5 heures plus tôt. C'était pas des débris d'un disque volant, c'était des choses parfaitement ordinaires. Le Jesse Marcel, le major, Jesse Marcel, mais le mot major n'avait pas le même sens qu'en français. Hein. Major, c'était quand même quelque chose comme lieutenant-colonel, je crois. Jesse Marcel était pratiquement le pauvre tourné en ridicule, puisqu'il avait pris pour des débris d'un mystérieux engin, ce qui n'était que des bouts de ballon qui étaient tombés et qui étaient dans un état pitoyable. Autrement dit, la nouvelle tournait au ridicule, mais en tout cas, elle était dégonflée. Il y avait eu certes une annonce par les militaires de la découverte de ces débris, mais il y avait eu presque aussitôt le démenti officiel à un niveau hiérarchique encore supérieur. Donc l'affaire était terminée. La nouvelle a cessé de se propager. 2 ou 3 jours après, plus personne ne parlait de cette histoire de Roswell. Alors, comment la connaît-on aujourd'hui avec tant de détails? En 1978, un physicien nucléaire américain, canado-américain plus exactement, qui a consacré sa vie à partir du milieu des années 70 à l'étude du problème OVNI, tellement ça lui semblait intriguant. Stanton Friedman avait commencé à donner des tournées de conférences dans des établissements d'enseignement secondaire et dans des universités pour faire connaître le problème OVNI et aussi pour aller à la pêche aux informations. Et à la suite d'une de ces conférences, quelqu'un est venu lui parler et lui a dit deux mots de cette histoire de Roswell dont il ignorait tout. Ça, c'était en 1978. L'informateur de Stanton Friedman lui a conseillé de retrouver l'ex-major Jesse Marcel, qui était plus que qui que ce soit au courant de l'affaire. Et Stanton Friedman, qui est quand même un sacré enquêteur, s'est mis au travail. Il a retrouvé Jesse Marcel. Et c'est comme ça qu'il a eu connaissance de cette histoire. Marcel, à ce moment-là, était un homme âgé, pas en très bonne santé. Il a dit à Friedman tout ce qu'il savait, avec tous les détails qu'il avait gardés en mémoire, à charge pour Friedman de faire connaître l'histoire. Ça, c'était en 1978. Ensuite, c'est venu aux oreilles d'autres chercheurs. Un premier livre est paru sur la question, mais qui n'est pas le mieux renseigné, surtout pas maintenant, sur la question. Ça a quand même attiré la curiosité d'autres chercheurs qui se sont mis à chercher des éléments complémentaires. Et dans les années 90, dès le début des années 90, même la fin des années 80, l'affaire de Roswell, qui était restée ignorée pendant une trentaine d'années, une 78 moins 47, ça doit faire 31. Cette affaire a fait de plus en plus de bruit, a intéressé de plus en plus de chercheurs, et beaucoup d'entre eux sont parvenus à trouver des éléments qui rendaient l'histoire plus riche, plus cohérente, et qui en tout cas confirmaient qu'il s'était passé de bien étranges choses à Roswell en ce début de juillet 47. Alors, parmi ces chercheurs, il faut citer principalement, outre Friedman lui-même, Kevin Randall, Donald Schmidt, Thomas Carey maintenant, ces gens-là et d'autres ont creusé la question, ont recherché des témoins ou des descendants de témoins, et tout ça a abouti ces dernières années, même si maintenant l'afflux d'informations supplémentaires est pratiquement tari. On peut dire que dans les années 90 et les 5 ou 10 premières années de ce siècle, le dossier de Roswell s'est considérablement enrichi. On a connaissance d'un nombre très grand de témoignages. Très vite, on en a connu une centaine. Alors, il s'agit évidemment pas toujours de témoignages totalement explicites qui exposent l'affaire de A à Z. la plupart du temps, il s'agit de témoignages indirects. On trouvait encore récemment des gens comme Carré et Schmitt. On trouvait il y a au début de la décennie précédente. On trouvait des gens qui n'avaient pas vu eux-mêmes les débris, bien sûr, mais qui avaient connu des gens qui les avaient vus, ou bien dont les parents avaient été mêlés d'une manière ou d'une autre à l'histoire. Tout ça est extrêmement compliqué. Il existe une très bonne et très riche littérature sur l'affaire de Roswell, qui permet d'oublier les premiers livres parus sur la question. Et donc, ce n'est que récemment, au cours des 20 dernières années, ou des 25 dernières années, qu'on a eu une connaissance précise de ce qui s'était passé en 47. Alors, quand je dis une connaissance précise, il faut bien se mettre d'accord. On est loin d'avoir les réponses à toutes les questions qui se posent. Mais on dispose d'une quantité formidable de témoignages partiels qui dessinent une histoire globale. C'est un petit peu comme un tableau pointilliste. Vous avez des points. Chaque point, c'est une petite tache de couleur. Mais il y en a un très grand nombre, et quand on prend du recul par rapport à tout ça, ça dessine un scénario global, alors qui est la chute dans les environs de Roswell de deux et peut-être trois objets à peu près à la même date, dans les tout premiers jours de juillet, peut-être même fin juin, la chute d'objets dont les militaires auraient eu rapidement connaissance, et les débris auraient été récupérés. Les témoins de ces opérations de récupération, de nombreux témoins, ont été menacés par les autorités militaires, menacés des pires représailles si ils faisaient savoir le peu qu'ils connaissaient. Et, chose plus formidable encore, sur un ou deux de ces deux ou trois sites de récupération d'épaves, les militaires auraient trouvé des petits personnages, peut-être tous morts, mais c'est loin d'être sûr. Il y a des témoignages qui parlent de survivants. Là, je dis survivants au singulier, parce que je connais pas de témoignages où il soit question de façon sûre de plusieurs survivants. En tout cas, des petits personnages d'un mètre ou un peu plus d'un mètre de haut ne portant pas de vêtements faciles à identifier comme vêtements, mais plutôt vêtus d'une espèce de combinaison enveloppant entièrement le corps, à moins que ce ne soit leur peau, avec de grosses têtes, des grands yeux, des très petites bouches, de tout petites narines presque inexistantes, de toutes petites oreilles pratiquement réduites à un trou, une peau de teint grisâtre, diversement décrite, mais je crois que le mot qui résume mieux la couleur, c'est grisâtre, non pas grise, mais grisâtre, avec parfois des nuances de rose, de violet, de vert. Mais en tout cas, pas d'aspect humain. ces personnages ne s'exprimaient pas dans un langage compréhensible, et on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus. Voilà quelle est l'histoire de Roswell au stade actuel, et les nombreux et excellents chercheurs américains en ufologie ont fait un tel travail depuis l'extrême fin des années 80 jusqu'à la première décennie de ce siècle. Ils ont fait un travail tellement approfondi, tellement méticuleux, qu'on a peu de chance d'en apprendre beaucoup plus maintenant sur la question. Voilà quelle est l'histoire de Roswell, qui Alors. Domine l'histoire de l'ufologie en général, hein, puisque rarissimes sont les cas d'une étrangeté comparable. Alors cette histoire, elle nous incite évidemment à nous poser une question. Si tout ça est vrai, comment ça peut être si mal connu, si peu connu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il ne s'agit pas de racontards, de blagues, de montages, de canulars? C'est incompréhensible, enfin, on n'arrive pas à y croire, quoi.
Je voudrais juste attirer l'attention de nos auditeurs sur deux, parce qu'il nous reste 5 minutes, sur deux faits très importants concernant l'histoire de Roswell. C'est que la plupart des témoignages recueillis par les enquêteurs l'ont été sous affidavit, c'est-à-dire sous serment. Et on rigole pas avec ça, c'est-à-dire qu'un faux témoignage peut vous conduire en prison, hein, me semble-t-il.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Et puis, une chose très importante quand même, c'est que la Cour des comptes américaine, saisie par le député du Nouveau-Mexique, avait enquêté sur Roswell. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que, je crois que la conclusion du rapport, c'est le débat sur ce qui est tombé à Roswell n'est pas clos,
continue.
Finalement.
Il n'est pas clos.
Et je crois que toutes les archives...
Et ça, c'était en 1995, il y a 23 ans.
Oui, et je crois que la Cour des comptes avait mis en lumière le fait que des archives de la base avaient été totalement détruites sans qu'il y ait d'ordre de destruction, ni de date, ni quoi que ce soit, ce qui est
Je ne sais pas s'il faut dire qu'elles ont été détruites. Il vaut peut-être mieux dire qu'elles ont disparu.
Elles ont disparu.
La totalité des archives pour la période concernée est introuvable. Ce qui est quelque chose de complètement impensable. Parce qu'il existe des règlements très stricts pour la conservation des archives et pour leur destruction périodique, parce qu'évidemment on ne peut pas tout garder sur tout. Mais la destruction des archives de cette base, qui était la base la plus importante dans le système militaire américain, puisque c'était là et uniquement là qui étaient stationnés des bombardiers nucléaires, cette disparition des archives est parfaitement incompréhensible. D'autre part, il y a un point qu'il faut soulever, c'est qu'il y a 23 ans, à l'époque où le sénateur Schiff a déclenché son enquête auprès du GAO, du General Accounting Office, qui est quelque chose comme l'équivalent de la Cour des comptes chez nous, pour savoir ce qui s'était passé à l'époque et ce qu'étaient devenus les archives, entre autres questions. À cette époque-là, une formidable opération de désinformation a été montée, qui avait manifestement pour objectif de ridiculiser l'affaire de Roswell. Il s'agit de l'histoire de l'autopsie du petit cadavre, dont beaucoup de nos auditeurs se souviennent probablement. En 1995, même en France, sur une très très grande chaîne de télévision qui s'appelle TF1, on a pu voir une émission qui montrait un film puis, on ne sait pas très bien quand, mais sans doute pas un film récent, puisque c'était un film en noir et blanc, sur lequel on voyait des personnages vêtus de combinaisons intégrales, donc dont on ne pouvait pas distinguer le visage. Il s'agissait de chirurgiens qui pratiquaient une autopsie sur un petit cadavre qui pouvait avoir dans les 1 mètre de long. Cette séquence de l'autopsie a pratiquement fait scandale. Mais le scandale lui-même est scandaleux en la matière, parce que la raison pour laquelle le film a été tant décrié n'est pas la bonne. Tout ça est un petit peu compliqué, mais ça a sans doute été voulu ainsi. Ce film de l'autopsie, qui continue à poser quantité de questions, a énormément contribué à discréditer l'affaire de Roswell. C'était en 1995. Et plus personne n'y pense maintenant. Parmi les milliers de téléspectateurs qui ont pu voir cette sinistre autopsie ou parodie d'autopsie, combien y en a-t-il qui s'en souviennent et qui se posent des questions ? Très peu, j'en suis certain.
Joël, merci. On arrive au terme de cette émission. On se retrouve dans 4 semaines pour continuer le récit de l'histoire contemporaine des ovnis. Ce sera donc dans Les Témoins de l'Invisible. Je rappelle que tous nos enregistrements sont disponibles en podcast sur radiorentiel.fr, Les Témoins de l'Invisible. À dans 4 semaines.
Un jour ça s'arrête, un jour tout le monde se sauve. Adieu la frime, adieu les costumes, le rhythm and blues toute la nuit.